Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique. C'est un drôle de théâtre, de divertissement bien sûr, mais surtout de masque que celui des Noces de Figaro de Mozart. Les jeunes garçons s'y déguisent en jeunes filles, faut dire comme ils sont joués par des femmes, l'illusion n'en est que plus criante. Les comtesses s'habillent en servantes pour tromper leur mari. Tout ce beau monde se ment, oui, abondamment, jusqu'à ce qu'à la fin, évidemment, tout le monde se retrouve, se fasse la bise, chacun retrouve sa chacune aussi, et tout va pour les mieux dans le meilleur des mondes possibles. Pourquoi vous parlez de ça? C'est parce qu'on a appris aujourd'hui la disparition de David Bowie et qu'on s'est dit que d'une certaine manière, si quelqu'un pouvait répondre aux Noces de Figaro dont on devait parler dans cette émission, eh bien c'était peut-être lui. Bon, je ne dis pas que tout ça a été fait exprès, mais enfin, s'il y a eu un homme qui a porté le théâtre sur la scène du rock, qui a joué des masques aussi, des avatars et des personnalités multiples, eh bien c'est lui. Au programme donc de notre Classic Club aujourd'hui, Yvan Alexandre qui nous parlera de sa mise en scène des Noces de Figaro à Versailles. Et puis en deuxième partie d'émission, Vanessa Wagner et Eric Dahan qui rendront hommage à David Bowie. Bienvenue à tous dans le Classic Club, de retour au Bedford, et ça, on peut dire qu'on en est très content. C'est l'ouverture des Noces de Figaro de Mozart dans la dernière grande version discographique en date, celle signée Theodor Currensis avec son orchestre Musica Eterna. C'est sorti il y a un an, quelque chose comme ça, et c'était tout de même assez ébouriffant. Bonsoir Yvan Alexandre.
Bonsoir Lionel.
Vous avez aimé cette version? Vous l'avez écoutée? Je ne sais même pas si vous avez une.
J'ai pas écouté entier, non.
Pas en entier, ah bon? Ça vous est tombé des oreilles à un moment?
Non, pas du tout. Je fais une espèce de marché, j'en ai écouté tellement ces derniers. Je dois dire que j'étais en train de préparer les Noces de Figaro, alors j'ai un peu une particularité qui n'est pas spécialement la mienne, mais enfin qui n'est pas partagée par tout le monde, qui est que quand je travaille sur une œuvre, je n'écoute pas.
Ouais.
Je travaille que le livret, des textes, beaucoup la partition évidemment, mais bizarrement. Et alors c'est pas du tout un choix du genre, j'ai peur que ça m'influence ou je ne veux pas. Ça. Non, c'est juste, j'ai pas envie et pas besoin.
Ouais. Donc vous êtes avec toute la journée, peut-être pas le soir.
Mais je l'écouterai dès que j'en serai sorti. Là, je suis d'accord. Encore un peu dedans.
Vous l'écoutez un peu quand même là depuis quelques temps avec les représentations que vous avez eues cet été à Drottningholm.
Absolument, voilà, là j'étais contraint et forcé. On m'a attaché.
Les Noces de Figaro, si je comprends bien, Yvan Alexandre, si j'ai bien lu, c'est un peu matriciel pour vous quand même, non? Comme œuvre, pour votre propre construction, en fait.
Un peu
matriciel, originel, je sais pas comment on peut dire.
Ah oui, dans mon histoire, oui. Professionnelle, oui. Dans mon histoire personnelle, pas tant que ça, parce que je suis venu à l'opéra très tard, en fait. J'étais plongé dans la musique. Je suis pas du tout d'une famille de musiciens, donc je suis venu à la musique assez tard déjà. Et j'étais déjà dans la musique quand je suis tombé après dans l'opéra. Et d'ailleurs, comme beaucoup de gens qui ont fait ce chemin-là, a priori, l'opéra me dépassait complètement. Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé par le théâtre. Donc pour moi, c'était théâtre et musique. Et l'opéra me faisait honte.
Quoi. Pourquoi? Parce que les grosses dames qui chantent, le ridicule, tout ça, l'artifice.
Vu du théâtre, c'est du mauvais théâtre. Et vu de la musique, c'est de la sous-musique. Je sais pas comment vous dire. J'arrivais pas du tout par là. En plus, j'arrivais pas de la musique par Stravinsky, Ligeti. Ouais. C'était très très étrange. Et donc, il avait fallu quelques expériences choc. Et dont les Noces de Figaro, absolument, au Palais Garnier. Alors oui, c'était un grand choc. Et dans les Noces de Figaro, certains moments en particulier.
D'accord. Vous dites les Noces de Figaro de Garnier, c'est-à-dire celle de Strehler.
Celle de Strehler, oui, bien sûr.
Ah, c'est ça, d'accord.
Pas composée par Garnier, mais composée par Mozart.
Mais mise en scène,
parce que c'est tellement les Noces de Figaro, quand on dit les Noces de Figaro de Garnier depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu celle de Strehler, que je n'ai pas vue à l'origine, bien sûr, mais que j'ai vue pour la première fois, je l'ai vue beaucoup, mais pour la première fois, je crois, 79.
D'accord. Moi, je sais ce qui m'a absolument ébouriffé aussi dans cette pièce-là, dans cette mise en scène-là par Strehler. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué là-dedans? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, l'opéra devenait accessible par là?
J'ai trouvé tout de suite tout naturel pour la première fois de ma vie. Il s'est passé aussi une chose très particulière, c'est qu'une des raisons, j'étais encore adolescent, on peut dire, et alors vraiment carrément bébé du point de vue de la formation musicale, c'est que l'opéra et les grosses dames, bon, la Castafiore, j'avais fait le tour de ça, et allant beaucoup au théâtre, énormément, bien plus au théâtre, ayant déjà vu 100 pièces de théâtre à l'âge de 19 ans, quand j'ai vu mon premier opéra, si vous voulez. Quand j'ai vu le rideau se lever sur Margaret Price au deuxième acte, ça m'a fait rire. Ça y est, c'est reparti. Alors, voilà la Castafiore. Et puis, déjà à la fin de Porgiamor, je me demandais dans quel monde j'étais transporté. Et à la fin de Dove Sono, c'était carrément sur quelle planète. La reprise, je pourrais dire, avec deux ou trois autres expériences, il ne faut pas trop exagérer non plus, mais avec deux ou trois autres expériences d'opéra, je pourrais dire que la reprise pianissimo, devrait-on dire, de Dove Sono par Margaret Price est la raison pour laquelle je me trouve ici en face de vous.
D'accord.
C'est pourquoi? C'est un des moments où ma vie a totalement basculé. Je suis sorti de là plein de réponses à des questions que je ne me posais pas, plein de questions qui n'ont jamais eu de réponse, plein de choses qui n'existent nulle part ailleurs. Ce que transmet la voix humaine, où elle touche. Comme dans certains restaurants, vous avez les très grands restaurants, ce qu'ils ont par rapport aux autres, ils vous font découvrir des papilles que vous ne vous connaissiez pas. C'est pas que c'est bon ou pas bon, c'est juste que ça vous découvre des organes d'essence qui étaient restés depuis la naissance inoccupés. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Margaret Price a occupé dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, des endroits totalement vacants et qui avaient envie de suivre.
Nos auditeurs ont entendu ce soir, non seulement qu'on va parler des Noces de Figaro, l'occasion de votre mise en scène qu'on pourra voir à Versailles, Yvan Alexandre, ce vendredi et ce dimanche, mais aussi qu'avec un peu de public ou de bruit qu'on entend derrière nous, on a changé de lieu. Bonsoir Gérard Berru.
Bonsoir Lionel.
Le patron de l'hôtel Bedford à Paris où nous étions depuis le début du mois de septembre, et puis il y a eu un certain 13 novembre.
Voilà.
Des raisons de sécurité, bien compréhensibles d'ailleurs, un principe de précaution qui fait que pendant 8 semaines, on a été rapatrié à Radio France, et nous revoici à partir de ce soir chez vous. Désolé de vous envahir, hein.
Écoutez, on est ravis de vous retrouver. retrouver. Vous nous avez manqué pendant
toute
cette
période. Ah ben
vous
aussi, je dois dire.
Et on est ravis ce soir de vous retrouver avec votre équipe, avec Antoine, avec Flora, avec Maud. Enfin, voilà.
Avec tout le monde. Qu'est-ce qui a changé, dites-moi, Bedford, depuis 2 mois que je ne suis pas venu ? Rien, j'espère.
Qu'est-ce qui a changé ?
Les travaux qui sont en
cours. Oui, on fait des travaux assez importants qui avancent et qui sont presque terminés. Donc voilà.
D'accord. Voilà. Dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça sera fini ?
Dans 15 jours, ça sera quasiment terminé.
Ah bah écoutez, voilà. On sera revenu, les chambres seront au complet, ce sera le Bedford pour l'éternité. Voilà. Merci en tout cas de nous accueillir encore, on espère rester ici bien longtemps avec vous. Vous pouvez nous parler quand vous voulez, bien évidemment, hein, Monsieur Berru,
Merci,
votre hôtel ou d'autres choses. Yvan, vous avez cité Margaret Price, hein, j'ai bien ça. C'est bien ce qu'on a là sur la platine, ça tombe bien, c'est vous qui nous l'apportez. C'était le Porgi Amor des Noces de Figaro de Mozart dans la version de Riccardo Muti en 1986. Et on avait ici, que nous proposait donc à l'écoute Yvan Alexandre, Margaret Price qui chantait le rôle de la comtesse. C'est vrai que c'est fort beau tout cela, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous mettez en scène Yvan donc ces Noces de Figaro de Mozart. Alors vous m'avez parlé il y a quelques années de cela, de la trilogie des hommes. Et quand je dis il y a quelques années, ça fait peut-être 8 ou 10 ans que vous me causez de cette histoire-là, de l'idée de faire une trilogie coordonnée sur une idée directrice.
Oui, c'est ça. Oui, je ne sais pas. Il y a une espèce de métaforme, quand même, de mégaforme, je ne sais pas, chez Mozart qui existe. C'est-à-dire, il y a des œuvres qui sont déjà très importantes. Les trois d'Apante, si on les joue en entier, font déjà presque 3 heures chacun. Oui. Ce sont déjà des grands opéras. Mais en dehors de ça, la trilogie d'Apante, c'est comme le Ring. C'est une espèce encore au-delà. C'est un peu comme les trois dernières symphonies. Il y a quelque chose comme une symphonie. Les trois dernières symphonies, c'est un peu une symphonie.
C'est un tout. Bah ça, c'est le fantasme Yvan Alexandre.
Non, regardez par exemple les tonalités, l'enchaînement des tonalités entre la 39, la 40 et la 41e. C'est peut-être pas fait comme ça, mais comme par hasard, la 40e correspond idéalement, sol mineur, à un mouvement central. Mmh. Et là, j'entends un peu ça. Il y a ces Noces de Figaro qui sont vraiment un allegro initial, Don Giovanni qui est un andante central et Così fan tutte qui est un allegro final, un rondo. Et tout ça, ça me paraît logique. Dans la vie de Mozart, il y a aussi un avant et un après, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien d'autre pendant ce temps-là. Mmh. Bon, il se passe quelque chose dans la carrière du musicien, mais il ne compose pas d'autres opéras pour d'autres salles. Tout se passe entre Prague et Vienne. Et ces années 86, les Noces de Figaro, 90, c'est ça à peu près, Così. C'est quand même 3-4 longues années ensemble. C'est vraiment sa vie, c'est toute sa vie. À un moment de maturité incroyable, la personnalité quand même très forte de D'Apante influe sur la pensée, le style, je n'en sais rien, mais la pensée certainement de Mozart. L'idée que Mozart se fait d'un drame qui est très forte avant de rencontrer D'Apante dès le début des années 1780, s'entend dans la manière dont D'Apante organise ses livrets. Donc il y a quelque chose, oui, je ne sais pas, il y a Strauss, Hofmannsthal, Mozart, D'Apante et Lully et Kino, si vous voulez. C'est des choses, pour moi, finalement, il a écrit d'autres chefs-d'œuvre. Mais quand on prononce le nom d'un librettiste, c'est D'Apante, c'est pas Schikaneder ou...
Mais ça, en plus, pour vous, ça se retrouve d'une certaine manière dans les idées mêmes que vous allez mettre en scène, vous. C'est-à-dire, je reviens à cette idée directrice, finalement, il n'y a qu'un seul personnage dans tout ça.
Non, mais en plus, quand je regardais l'ordre dans lequel cela s'est composé, c'est-à-dire les Noces de Figaro à Vienne, Don Giovanni à Prague et Così fan tutte à nouveau à Vienne, dans cet espace de temps, je me disais, mais il y a beaucoup de choses communes. L'amour vache, par exemple, on se tape dessus tout le temps, et en même temps, on se réconcilie, on se fait des bisous. Il y a une ligne directrice. Et en suivant cette ligne directrice, je me suis dit, mais au fond, il y a un personnage et on raconte son histoire. Alors, on pourrait rebaptiser tout ça The Rake's Progress, si vous voulez. Ouais. C'est un opéra de 9 heures.
La carrière du libertin, hein, comme
voilà, c'est la carrière du libertin. Donc, vous prenez le libertin à 15 ans. Il s'appelle le chérubin. Hein? Vous le retrouvez à 30 ans, il s'appelle Don Juan. Et vous le retrouvez à 55 ans ou 60 ans, et il s'appelle Don Alfonso. C'est-à-dire qu'avant, il saute sur tout ce qui bouge, mais il ne se passe pas grand-chose. Pendant, il a du mal, mais enfin, de toute évidence, il saute sur tout ce qui bouge, puisqu'elles sont 2000 et quelques, dont 1003 en Espagne. Et ensuite, quand il ne peut plus, ou que la prostate lui a joué des tours, ou que d'autres accidents de la vie l'empêchent de le faire lui-même, il le fait faire aux plus jeunes. Ah. Et ce côté un peu philosophie dans le boudoir, qui est quand même très net dans Così fan tutte. Et du coup, on raconte l'histoire d'une espèce d'avant, pendant, après, ces trois âges de la vie qui ressemblent en plus incroyablement à l'énigme du sphinx. Qu'est-ce qui marche à quatre pattes, à deux pattes et à trois pattes?
D'accord.
Don Juan.
Une sorte de sphinx, finalement, du libertinage, quoi.
C'est exactement ça. C'est la carrière un peu mythique du libertin, avec des opéras qui ne se ressemblent pas. Ouais. Par exemple, Don Juan, c'est un mythe. Les personnages des Noces de Figaro et de Così fan tutte ne sont pas des mythes, il n'y a pas ce caractère-là. Mais par exemple, les Noces de Figaro sont sous-titrées La folle journée à cause du mariage, à cause de la pièce de Beaumarchais. Du coup, ça, j'entends maintenant, depuis pas mal d'années, Don Juan comme La folle nuit. Il y a un caractère nocturne qui est d'ailleurs, ça commence la nuit, ça finit la nuit. La nuit est très présente dans tout le temps. Dans Don Giovanni. Il y a quelque chose, il y a un lien. De toute façon, il y a un lien évident qu'on entend dans le livret, dans la langue, dans les personnages, dans la distribution des rôles et dans la musique, naturellement. Il y a un lien entre ces œuvres différentes. Mais en plus, moi, je trouve effectivement que c'est une espèce de ring de Mozart en 9 heures.
Yvon Alexandre, je vous présente notre serveur attitré du Bedford. Ludovic, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir meilleurs vœux, bonne année.
Ah, c'est vrai, très bonne année à vous aussi. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis deux mois, donc c'était avant.
Ah oui,
dites-moi,
ça y est, c'est parti.
Vous aviez une bonne habitude, Ludovic, avant qu'on se retourne à la radio, qui était de nous faire en fait un cocktail par semaine, juste pour nous, en fait, pour nos auditeurs du Classic Club. Vous reprenez là cette semaine ?
Oui, bien sûr. Cette semaine, on reprend avec un classique. Le Spritz.
Ah, très bien. Vous avez voulu me faire plaisir, là.
Exactement. On a pensé à vous.
Alors, rappelez-nous comme l'histoire du Spritz, je suis sûr que vous la connaissez, celle-là.
En fait, le Spritz est né au 19e siècle, quand les Autrichiens étaient en Italie. Et ils trouvaient le vin italien beaucoup trop fort. Donc, ils le coupaient à l'eau, ils l'aspergeaient à l'eau, donc Spritzen.
D'accord.
Et donc, après...
Ah, Spritzen, ça veut dire couper,
aspergé
en fait,
allemand.
D'accord.
Et
je savais pas ça.
Gespricht.
Je savais que c'était entre le...
Voilà.
Ah, oui, comme la comtesse.
Exactement.
Pas tout ça.
Et après, ça a évolué avec les Italiens qui ont rajouté du Campari, puis de l'Aperol. Après, ils ont mis de l'eau gazeuse avec l'arrivée de l'eau de Seltz en bonbonne. Ouais. Et puis après, le Prosecco. Et donc, c'est devenu Aperol, Prosecco et eau gazeuse.
D'accord.
Et chacun a sa recette. Après les décorations, personnellement, moi, je mets une cerise à l'eau de vie, une tranche de citron et une tranche d'orange.
Ça doit être bien, ça.
Et donc, si vous voulez goûter, il n'y a aucun problème.
Bah écoutez, Yvon, si vous avez...
À Salzbourg et à Vienne, j'en prends tout le temps.
C'est vrai
longtemps, oui, absolument.
À Salzbourg et à Vienne, mais attendez, c'est une boisson italienne, le Spritz. C'est pas
non,
autrichien,
enfin,
non
si.
Ah si, vous récupérez
c'est,
aussi
c'est, bien sûr.
Ah d'accord.
Très populaire en Suisse, en Autriche, en Allemagne.
Ah bon,
oui,
d'accord.
Oui,
bien sûr. Ah, c'était spécifiquement vénitien, en fait.
Non c'est
le
Bellini.
Le vin, c'est le produit originel, mais l'objet, le cocktail final, non, le cocktail final, il est plutôt empire austro-hongrois.
D'accord, très bien. Bon, merci en tout cas, Ludovic.
Tout à l'heure,
sur des sages, vous offrez un petit spritz tout à l'heure. Fait comme ça, même deux. Non, pas tout de suite, vous rigolez.
Moi, je suis venu pour ça.
On a encore une heure d'émission à faire. Soyons minimum sobre au moins au début. Et puis surtout, on consomme sans modération. Je veux dire, avec modération, excusez-moi. On va y arriver. Le Noce de Figaro, toujours, cette fois-ci une version signée Hans Rosbaud. Il nous dira juste après pourquoi, Yvon Alexandre.
Thank you.
C'était l'air de la lettre, extrait des noces de Figaro de Mozart. On entendait ici Rita Streich, Teresa Stich-Randall, et c'était Hans Rosbaud qui dirigeait en 1955 au Festival d'Aix-en-Provence. Alors, Yvan Alexandre, il se trouve qu'il y a la discothèque idéale de Diapason, qui est le journal où vous êtes l'un des journalistes éminents, critiques, etc., qui nous offre depuis quelque temps une discothèque idéale. Le volume 4 était, il y a quelques mois, consacré aux grands opéras de Mozart. Et celui que vous avez choisi, vous, c'était justement les noces de Figaro, et c'était ce Rosbaud 1955 avec en Provence.
Exactement.
Pourquoi ça ?
Ben parce que les Mozartiens, en général, ne l'aiment pas. Il a beaucoup de très bons Mozartiens, de ma connaissance, l'ont toujours beaucoup attaqué, en particulier à cause de l'orchestre, qui n'est pas... C'est l'orchestre de la Société du Conservatoire. C'est certainement pas le Philharmonique de Vienne, ou le genre d'orchestre de sonorité et de charme auquel on est habitué dans ces œuvres-là. Mais il y a une force théâtrale, une vie, les filles, là, les deux qu'on vient d'entendre, Rita Streich et Stich-Randall, personnellement, je les adore. Il y a, tous les autres sont absolument merveilleux. Panerai, c'est absolument merveilleux. Et je trouve qu'il y a une atmosphère. C'est évidemment ce qu'on appelle un live, c'est pris sur le vif vraiment au Festival d'Aix 55. Par exemple, le Don Giovanni d'Aix, qui a été pris en studio, pour moi, n'a pas du tout cette odeur, cette qualité, et en même temps cette espèce d'urgence. Ça, la folle journée, c'est vraiment une folle journée. Là, on passe, et en même temps, sans aucune provocation, sans aucun effet de manche, c'est du pur théâtre. Et ça me plaît beaucoup, oui.
Vos noces de Figaro, Yvan Alexandre, on peut donc les voir, on pourra les voir à l'Opéra Royal de Versailles ce vendredi et ce dimanche, sous la direction musicale de Marc Milkowski. On reparlera ça un petit peu plus tard. Mais je voulais qu'on évoque quand même, puisqu'on a parlé de cette trilogie dans laquelle vous vous êtes lancé, la trilogie Mozart da Ponte, Drottningholm. C'est un opéra un peu mythique. C'est là où vous avez monté donc ces noces de Figaro l'été dernier. Les deux autres opéras, ce sera les deux étés qui viennent. Dans ce petit lieu dont il faut que vous me parliez, moi je ne l'ai jamais vu, il est mythique. C'est quoi en fait? C'est un théâtre de cour qui nous reste en l'état finalement du milieu du XVIIIe siècle tel quel.
C'est un théâtre de cour qui est une dépendance du château. La différence de Versailles, ce n'est pas dans le château, mais c'est un théâtre de cour comme Sans Souci, comme beaucoup de ces théâtres de cour. C'est beaucoup plus petit que Versailles et beaucoup moins ambitieux comme architecture.
Combien de places d'ailleurs ?
À peu près 400, grosso modo. Et c'est une espèce de grand salon, presque, de très grand salon. Alors du coup, très difficile à négocier, parce que c'est en forme de couloir, comme on faisait beaucoup dans les années 1760. Et une acoustique, par contre, excellente, mais quand même très, très sèche, bien sûr. Et puis une fosse d'orchestre qui n'est pas une fosse, qui est posée par terre. Donc on peut mettre très peu de gens, en fait. L'orchestre est tout petit.
Et c'est que le principe de la fosse n'était pas encore en cours. Hein, c'est,
non, en tout cas, pas dans ce type de théâtre. Voilà. Où on faisait d'ailleurs beaucoup de théâtre avec musique. Le théâtre, entre théâtre et opéra, à l'époque, la seule différence, c'est que l'un est chanté tout le temps. Mais dans le théâtre, il y avait beaucoup de musique aussi. Il y a beaucoup d'équipements, d'ailleurs, dans le théâtre, qui sont de théâtre plus que d'opéra. En tout cas, ça marche très bien. Et surtout... C'est totalement équipé, c'est-à-dire que la machinerie, les changements à vue, les châssis qui changent devant vous, avec une machine, vous faites ça avec une ou deux personnes en bas, c'est incroyablement bien équipé, la machine est en état de marche, et de voir la machine fonctionner quand on est dessous, c'est absolument magique, c'est comme si vous y étiez, ça n'a absolument pas changé depuis le 18e, parce que le théâtre a été fermé, complètement oublié, c'est vraiment la Belle au bois dormant, retrouvé au XXe siècle, restauré. Beaucoup de choses sont fausses au sens où c'est rétabli pour qu'on puisse entrer, sortir et que ce soit habitable si on veut. Mais les loges sont des petites chambres. Le foyer, rien n'a changé. On n'a pas le droit d'entrer dans la maison avec du vin ou avec du Coca-Cola. Pourquoi ? Ou une boisson sucrée, seulement de l'eau parce que ça risque de tacher les boiseries historiques. D'accord. On n'a pas le droit d'y amener un morceau de pain parce que si ça tombe
des contraintes
par terre,
quand même, hein,
si ça tombe par terre, il risque d'avoir des souris, comme tout est en bois, c'est dangereux.
D'accord.
Donc,
et
le feu, c'est très contraignant. En plus, c'est très drôle, alors là, je peux le dire, parce que j'espère que tous les Suédois ne comprennent pas le français, mais nous avons eu un énorme problème, c'est que le rideau de sécurité se trouve à 4 mètres derrière le proscenium, donc à 4 mètres de la fosse, ce qui pour moi est très, très loin. Et d'ailleurs, il y a eu une longue négociation avec Versailles pour que ça n'arrive pas. Et là-bas, on est obligé. Pour moi, du coup, j'ai beaucoup changé, adapté de choses dans le spectacle avec cette contrainte-là d'un énorme proscenium de 4 mètres. Et on est obligé de jouer derrière en cas de feu, justement. Or, le rideau de sécurité n'est pas un rideau de fer, à la différence de l'immense majorité des théâtres dans le monde entier, théâtre ou opéra, ça ne change rien.
c'est un rideau d'amiante, ce qui me fait quand même bien rigoler, parce que la première chose que j'ai signalée au comité de sécurité, c'est de leur dire, vous savez que votre, si je téléphone à Bruxelles, votre théâtre va fermer.
Ce que vous n'avez pas fait.
Non, évidemment, je ne l'ai pas fait, j'étais tellement content de travailler dans ce bijou.
Alors un bijou qui en plus, presque, on est vraiment dans le truc de l'époque, j'imagine, c'est bien en plus dans l'idée de vos mises en scène à vous, je me souviens celle que j'ai vue d'Hippolyte Harissi, qui était vraiment entre quelque part, entre Strehler aussi, avec l'idée peut-être de quelque chose qui est assez commun avec Benjamin Lazare, c'est-à-dire d'essayer de reproduire quelque chose qui ne serait pas de la reconstitution, mais quand même, oui. De vraiment se remettre dans l'image, l'imaginaire de l'époque.
La grande différence avec Benjamin, et justement elle est là, c'est que lui ne travaille pas du tout avec les châssis, les changements à vue de châssis, il a très très peu de toiles peintes, c'est quelque chose qui ne participe pas tellement de son langage, il travaille avec d'autres types de décors, alors que moi je travaillais justement avec un langage alors purement 18e de toiles peintes et de châssis changés à vue, ce qui est une hérésie pratiquement au Palais Garnier, évidemment c'est pas du tout fabriqué comme ça, c'est beaucoup trop haut, beaucoup trop grand, c'était très difficile. J'ai un peu fait Drottningholm, transformer le plateau de Garnier en Drottningholm géant, ce qui était quand même vraiment tiré par les cheveux. Et du coup, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup dans le public habitué suédois, des gens un peu choqués par ce qu'on a fait à Drottningholm, puisque pour la première fois, on n'utilise pas du tout dans cette trilogie les châssis en question et les changements à vue. D'abord, je vois pas du tout l'intérêt des changements à vue dans Les Noces de Figaro, parce que c'est pas ni dans Donjon, c'est pas du tout ça l'histoire. Oui. Si je faisais Idoménée ou La Flûte Enchantée, évidemment, ça c'est complètement autre chose, bien sûr. Mais là, c'est pas du tout le sujet. Ce n'est pas ce théâtre-là. C'est un théâtre. Ces trois pièces sont des théâtres contemporains. Je ne sais pas comment vous dire. Il n'y a absolument aucun. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de rêve. Si, dans Donjon un peu plus, mais ce n'est pas cette magie-là. Et du coup, on a un décor construit, que d'ailleurs nous avons démonté et remonté à Versailles, qui est posé sur le plateau de Drottningholm, qui d'ailleurs pose d'autres questions de sécurité, le poids, ne serait-ce que ça, parce que c'est un plancher qui n'est pas un plancher d'aujourd'hui. Et nous avons notre propre décor monté à Drottningholm. Ça a choqué, ce que je comprends parfaitement bien d'ailleurs, des gens qui viennent à la Drottningholm pour voir, ils en ont, mais rien à faire que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui fait la mise en scène, ils viennent voir la machinerie de Drottningholm,
la fameuse.
Et je les comprends parce que c'est magique.
C'est Scholti qu'on va entendre dans ce qui suit, et qu'est-ce qui change, je sais même plus parce qu'on l'a choisi au dernier moment. Ah ben si, c'est la chérubin, donc fatalement, c'est celle-là, oui, bah oui, c'est Friederike von Stadt. Frédérica von Stadt chantait Chérubin dans la version de Georg Scholti avec l'Orchestre Philharmonique de Londres, des noces de Figaro de Mozart. Nous parlons de ces noces depuis 10h30, les 23h07 avec Yvan Alexandre qui les monte, enfin qui monte toute la trilogie sur 3 ans et donc les noces de Figaro à voir à Versailles à l'Opéra Royal pour 2 représentations.
3. On en a ajouté une.
Ah pardon, alors je dis 2.
Non, non, c'est quoi la troisième ? Une troisième est arrivée entre les deux. Parce que là, il n'y avait pas le choix, tout le monde partait après. Donc les pauvres chanteurs vont chanter le 15, le 16 et le 17.
D'accord, donc vendredi, samedi et dimanche.
Exactement, la salle de samedi a été ajoutée pour cause de trop-plein. Oui.
D'accord, mais je crois qu'à Drockingham, en plus, il y avait beaucoup de représentations, parce que la salle est toute petite.
Oui, voilà, alors on compense le peu de place dans la salle par le nombre de représentations.
Mais ça, c'est bien, en même temps, quand on est chanteur, ça permet de reprendre, d'évoluer.
Oui, bien sûr, c'est très bien. Hein, quand c'est pas des séries de 80, ce qui n'arrive pas.
Oui, c'est ça. Et puis pas d'un jour sur l'autre,
c'est ça. Non, c'est merveilleux. Au contraire, c'est même plutôt un luxe de pouvoir développer comme ça. Ouais.
Alors, on a vu dans vos mises en scène précédentes, Yvan Alexandre, que vous aimez bien l'illusionnisme aussi, montrer avec des moyens qui sont relativement simples tout ce qu'on peut faire au théâtre qui est là pour ça. Mais enfin, les Noces de Figaro, c'est un théâtre qui est un peu psychologique quand même, c'est aussi un théâtre de situation. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu privilégier là-dedans dans votre mise en scène?
Non, la trilogie en général, donc forcément les Noces de Figaro, c'est vraiment ce qu'on a fait du théâtre de très tôt. C'est-à-dire qu'en fait, là, il se trouve, pour des raisons historiques, qu'on a monté ça dans 2 théâtres historiques sublimes, qui sont le théâtre de Drottningholm et celui de Versailles. J'en suis parfaitement enchanté. J'espère que ça va très bien se passer, même à Versailles, il n'y a pas de raison. Mais en fait, on pourrait le monter dans un garage ou dehors ou n'importe où on veut.
Il n'y a pas besoin de beaucoup de décors, c'est ça?
Il y a un décor, mais c'est très stylisé. Ce sont des toiles qu'on tire, que les chanteurs utilisent eux-mêmes à la main. Ah oui. Il n'y a aucun machinot sur le plateau. Il n'y a pas de coulisses. Il n'y a pas de cintre. Et il n'y a pas de dessous. Il n'y a rien. C'est une espèce d'anti-Hippolytère ici, absolument, qui était le théâtre. J'ai fait avec Hippolytère ici le théâtre à machine le plus extrême possible, avec 3300 m2 de toiles peintes. Et là, c'est un théâtre vraiment de très tôt, ce qui permet justement de se concentrer sur tout à fait autre chose.
Donc un théâtre de troupe aussi.
Absolument, complètement. La troupe est là, ils sont là tous depuis le début. Et d'ailleurs, il y a un peu de confusion entre les personnages de la vie et les personnages de la pièce. Comment ce qui est absolument voulu par...
Comment ça, attendez, vous me faites peur là,
oui, d'abord, oui, ça peut arriver, mais ça, je n'entrerai pas. Ils viendront vous le dire s'ils le veulent. Qui est entré et qui est parti avec qui.
Et par quelle porte, c'est ça l'important.
Et par quelle porte, surtout au deuxième acte, ça c'est bien vrai. Mais non, c'est un théâtre de très tôt, dans le sens où le théâtre de Mozart et d'Aponte, ce Mozart-là, le Mozart de d'Aponte, est celui qui efface le plus et le plus volontairement les frontières entre le théâtre et la vie. Il y a beaucoup de personnages où on ne sait plus qu'est-ce qui est de l'ordre du portrait de la rue. Un personnage comme Zerline ou des personnages comme Suzanne. Suzanne, par exemple, n'a pas de grand air vocalisé. Elle est là tout le temps. C'est le personnage. Je ne sais plus si c'est ma voisine ou si c'est un personnage historique. Vraiment, je ne le sais plus. C'est tellement. On ne sait plus si c'est la vie ou le théâtre. Et quelquefois, parce que ce qui est théâtre n'est pas très théâtral, c'est très vivant. Ce qui est joué est très sincère. Ce qui est déclaration est au contraire très, très théâtral. Cette confusion est intentionnelle. Et alors vraiment, j'ai voulu jouer ça, qu'on ne voit pas exactement où se trouve la frontière entre la vie et le théâtre.
Est-ce que vous avez aimé mettre ça en scène? Parce que je me dis que les Noces de Figaro ne doivent rien avoir plus agréable pour un metteur en scène que de le monter, tellement
c'est atroce.
Ah bon?
C'est atroce parce que il y a 2 solutions. Vous faites exactement ce qui est marqué. Et bon, bah, vous le connaissez déjà. Ouais. Ça a déjà été très bien fait par des gens bien meilleurs que moi, si je puis dire. Ou bien vous faites autre chose et ça marche pas. Et non, c'est un théâtre très difficile parce que absolument tout est informatif. Toutes les déclarations des personnages vous informent sur qui est où est le tel élément, où est la clé, où se trouve, qui est caché derrière le fauteuil, à quel moment, et là tu étais où. On vous raconte tout de A à Z.
C'est-à-dire que vous êtes tenu en fait.
Assez des rails, absolument. Alors d'accord. Après, sur ces rails, qui sont... Moi, je n'ai eu aucune intention de sortir de ces rails. Ce sont les rails. Du coup, j'ai organisé un peu ma petite vie dans le wagon. J'ai fait un peu autre chose dans le wagon, mais quelque chose de plus libre. Mais je me suis tenu strictement aux rails de d'Aponte et de Mozart, qui sont, dans le cas des noces, et ce n'est pas du tout le cas dans Don Juan, par exemple, extrêmement forts. Tout est information. dans ce livret. Et où vous jouez à l'imbécile et vous faites exprès de donner des informations qui ne correspondent pas à ce que vous voyez. Alors c'est très très c'est super structuré, très 70s, surtout pas de redondance, on ne doit pas voir ce qu'on entend et réciproquement. Mais du coup, bon, ça s'adresse à ceux qui connaissent absolument ça par cœur. Ou bien vous faites effectivement de la redondance et vous avez l'impression d'assister à la même représentation que quand vous aviez 12 ans. Donc entre les deux, c'est pour trouver son chemin, pour avoir quelque chose de vraiment inventé et vraiment vivant, et en même temps qu'il soit strictement les Noces de Figaro, oui, ça demande de se creuser un peu.
On va aller vers le final pour refermer notre évocation de vos Noces de Figaro. Yvan Alexandre, le final, il sera ici dirigé par René Jacobs.
Ma resistete, uscite, madama, in pleno rovra.
le final des Noces de Figaro de Mozart par René Jacobs. Le concerto Köln est plein de beaux mondes qu'il y avait tout autour, qu'on ne va pas nommer, parce qu'on va nommer en revanche la distribution que vous aurez, vous, vendredi, samedi et dimanche, à l'Opéra Royal de Versailles. Yvan Alexandre, tout d'abord les musiciens du Louvre au Grenoble, dirigés par Marc Minkowski. Et puis, côté distribution vocale, alors plein de plutôt jeunes en plus. Hein, je crois,
oui. Si je vois à vue de nez comme ça, 30 ans, c'est ça, hein. Notre compte à 28 ans, je crois. Florian Sempé, Robert Glido. Robert Guido en Figaro, Florence Sempé, son premier compte à 28 ans, c'est quand même pas mal, c'est fantastique. Anna-Maria Labine, que j'adore en comtesse.
Lenecker-Reuten. Qui a une trentaine d'années aussi.
Absolument,
hein.
Mais tous ces gens sont très jeunes. Lenecker-Reuten, qui est de la même génération, qui fait Suzanne. Et Ingeborg Guillebo, une Norvégienne formidable, qui alors fait, Don Juan jeune, c'est ça en fait, Chérubin.
C'est ça.
Le même, mais avant. Avant
pour la vous, c'est le même, vraiment. Hein.
Don Juan avant la mue.
C'est pas elle qui fera Don Giovanni, non, ce sera pas possible.
Elle ne chantera pas Don Giovanni, à moins qu'elle ait des gros problèmes hormonaux d'ici le mois de juillet. Mais nous aurons une très très belle distribution. Je suis vraiment ravi de cette distribution. Et évidemment, faire ce troisième opéra avec Marc, c'est quand même un grand privilège aussi.
Ah oui. Et puis vous en ferez deux autres derrière, en plus. Oui. On l'a bien compris. Hein. Oui, ça viendra à Versailles aussi.
C'est plus ou moins prévu, j'ai l'impression, oui.
Bon, j'ai l'impression. Ça c'est une très bonne chose.
France Musique.
Il est 23h19, vous écoutez le Classic Club en direct de l'hôtel Bedford, 17 rue de l'Arcade à Paris. Yvan Alexandre, j'imagine que vous adorez David Bowie.
Non mais au moment où vous posez la question, je viens de m'apercevoir que Bowie plus Mozart, ça fait Beaux-Arts.
C'est bruxellois, c'est ça.
J'ai le cerveau bizarre. Non, j'adore pas non. Du tout David Bowie. En fait, je connais très mal, mais simplement, ça correspond à une histoire incroyable. C'est que la première fois que je suis allé à Londres, j'avais 11-12 ans, et dans toutes les boutiques, il y avait beaucoup, hein, des disquaires à Londres, partout, il y avait une vingtaine, rien que sur Oxford Street, il y en avait une dizaine. Et dans toutes les vitrines, il y avait le disque avec Bowie, avec son éclair rose. Et du coup, tous mes camarades de classe, j'étais en cinquième, je crois, et tous mes camarades de classe sont revenus avec le disque. Et moi, j'ai boycotté.
Ah, d'accord, vous avez fait de la résistance.
Là, je raconterai pas.
Non, mais c'est un personnage
charmant. Je peux raconter ça qu'aujourd'hui.
Éric Dahan, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous ai demandé de venir, vous me faites l'amitié de le faire ce soir. Merci beaucoup à vous pour parler, bien sûr, de David Bowie, dont on a appris la disparition survenue hier soir. On va en parler avec vous tout d'abord en se disant que c'était pas attendu pour le coup pour certains. Je pense à Pierre Boulez la semaine dernière, on savait depuis longtemps malade. La Bowie, c'est un peu une surprise quand même, non?
Disons qu'il y avait des rumeurs sur le fait qu'il était malade depuis des années, qu'il s'est bien gardé de démentir. Voilà, il était très amaigri, mais on pouvait se dire simplement voilà qu'il avait fait un régime.
Surtout, ça fait 10 ans qu'il était malade en fait, vraiment.
Oui, enfin non, il a eu un infarctus il y a 10 ans. Ouais. Après, il y a eu des rumeurs selon lesquelles il avait un cancer. Il est vrai qu'il a été dans un hôpital, voilà, faire des examens à New York. Donc les rumeurs vont très vite, mais il n'avait rien dit. Puis il y a eu ce retour après 10 ans d'absence en 2013, puis ce nouveau disque. Visiblement, il semblait en pleine forme. En tout cas, il travaillait. Donc voilà, on pouvait pas savoir. En tout cas, personne ne le savait. Et hormis peut-être Tony Visconti qui était son coproducteur. Un ami de longue date, il a bien dû s'apercevoir du fait que David était très amaigri et affaibli à des moments. Mais en tout cas, pour le grand public, personne ne savait rien.
Mmh. Vanessa Wagner, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous avez fait un tweet aujourd'hui, après qu'on ait appris la disparition de David Bowie. On l'a vu à France Musique, ce tweet, en particulier Marc Voisin, notre directeur. Il a dit, mais pourquoi on n'irait pas demander à Vanessa Wagner? Je vous ai appelé et en effet, vous étiez vraiment pas lié à David Bowie, mais à sa musique, j'ai l'impression, de manière assez forte.
Oui, j'écoute David Bowie depuis de nombreuses années. La première fois que j'ai entendu sa musique, c'était dans le film de Léos Carax, Mauvais sang, et la scène absolument incroyable de Denis Lavant qui court sur le trottoir avec Modern Love, et je devais avoir 12-13 ans quand j'ai vu ce film, et ça m'avait vraiment vraiment marqué.
Et qu'est-ce que ça présente pour vous justement d'avoir cette disparition de Bowie aujourd'hui, celle de Pierre Boulez la semaine dernière? Il y a un rapprochement certainement pas à faire, mais peut-être d'une certaine manière, non?
Si, le rapprochement, c'est que c'est, enfin à mon sens, c'est dans ce sens qu'allait le tweet que j'ai fait aujourd'hui, c'est que c'est des hommes extrêmement charismatiques, géniaux dans leur domaine chacun, avec des personnalités extrêmement différentes, mais dont on ne peut pas nier qu'ils auront marqué énormément l'histoire de la musique. Et Boulez, évidemment, est un grand génie, un compositeur, un chef, quelqu'un qui a été extrêmement aventureux, qui a prôné la liberté sous un cadre assez rigide, mais qui a quand même ouvert infiniment les portes et puis qui a créé l'IRCAM, le domaine musical, l'IRCAM, l'ensemble contemporain, la cité de la musique, toutes ces choses dont très très fortes qu'on lui doit, et puis un chef incroyable, enfin un pédagogue, un polémiste politique, et puis David Bowie, dans son style à lui, a aussi été totalement iconoclaste, polymorphe, inventeur, ou voilà, il a donné à énormément d'artistes encore aujourd'hui, même de sa génération, une influence colossale. Donc, en ce sens, ces deux hommes, ces deux disparitions sont très très fortes. Et on. Voilà, ça m'a un tout petit peu les esprits chafouins, un petit peu de la musique classique, parfois un peu fermée, qui disent il y a trop de choses sur David Bowie, il n'y en a pas eu assez sur Boulez. Bon, il y a eu très peu de choses sur Dutilleux, ça c'était une énorme erreur, je dirais. Bon, enfin, c'était un scandale, oui. C'était infiniment triste. En revanche, pour Boulez, j'ai trouvé quand même que les hommages étaient là. Et aujourd'hui, bien sûr, il y en a plus pour Bowie, parce que c'est
popularité plus grande,
plus
évidemment.
Populaire. Et puis ça touche des milieux extrêmement différents, ce qui n'était peut-être pas le cas, évidemment, d'un Pierre Boulez.
Vous avez nommé cette chanson, Vanessa Wagner, Modern Love. Et bien, c'est avec elle qu'on va commencer l'évocation de David Bowie.
Yeah.
C'était Modern Love, chanté par David Bowie, l'un de ses titres fameux dont nous parlait tout à l'heure Vanessa Wagner. Alors, en me penchant un petit peu sur la biographie, la carrière de Bowie, Éric Dahan, j'étais très étonné, comme il a commencé à la toute fin des années 60, il fait son premier album, je crois, l'année où les Beatles se font Sgt. Pepper. Et quelque part, il relève de ce monde-là aussi, parce que pour nous, c'est quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus proche de nous, mais en fait, il est vraiment ancré là-dedans aussi.
Et puis même avant ça, je veux dire, les premiers groupes, il a 15 ans, quand il fait les Conrads, quand il fait le Lower Third, quand il fait... Donc il est déjà, dès l'âge de 15 ans, il fait des groupes en tant que saxophoniste d'abord, parce que c'est un fan de saxophone, de saxophone jazz, hein. Il est fan d'Eric Dolphy, de John Coltrane et aussi de King Curtis, saxophoniste de rhythm and blues, hein. Donc son rêve, à la base, son rêve c'était d'être le saxophoniste de Little Richard, parce que sa première grande émotion rock'n'roll, on va dire, c'est Little Richard, dont vous voyez de qui je veux parler, ce pianiste noir absolument extravagant, qui avec une voix insensée qui hurle, un shouter dans la grande tradition du rhythm and blues. Et totalement extravagant.
Un aspect sexuel très fort,
voilà,
aussi.
Voilà, coloré, extravagant, complètement avec un look comme ça, totalement presque androgyne, hein, avec des maquillés, fardés, enfin voilà, un personnage complètement dingue. Et pour lui, c'était ça le rock'n'roll. C'était comme une sorte de grande voiture rouge et brillante. Voilà. Donc David Bowie, au début, c'est ça, sa fascination. Donc dès le début, dès l'âge de 15 ans, il est déjà dans des groupes. Hein, et donc il a essayé de faire beaucoup de choses. Quand son premier album sort, en 67. Il a déjà arrêté de faire du rock, il fait une sorte de cabaret, de comédie musicale. C'est des chansons qui sont comme des sortes de mini thèmes, mini histoires. On est très proche de la comédie musicale d'Anthony Newley, par exemple, qui était une de ses premières grandes influences.
Donc, il y a un peu, pardon, de Courtevaille aussi, j'ai l'impression. Est-ce qu'il n'y a pas ça, ce côté un peu cabaret
Bien sûr, il a notamment incarné. Enfin, il a joué le bal de Bertolt Brecht et Courtevaille. Il a enregistré 5 chansons de Courtevaille, en plus de chanter Moon of Alabama sur scène, extrait de Mahagoni, le Mahagoni Singspiel.
Et puis aussi le Ziggy Stardust, qui est un album qui est en fait grandeur et décadence, qui fait penser aussi à Mahagoni. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Hein.
Absolument.
Et pas seulement d'ailleurs au monde classique, mais c'est pour ça que je vous parlais des Beatles aussi. J'ai l'impression que, je sais pas, il a chanté des chansons des Beach Boys par exemple. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une culture musicale qu'il récupère sans cesse pour sa propre œuvre.
Oui, de toute évidence, oui, il s'est toujours inspiré de ce que faisaient les autres, il s'est toujours décrit comme un fan. D'ailleurs, à chaque fois qu'on le disait de lui qu'il était un précurseur, un novateur, il disait non, pas du tout, moi je fais juste les polaroïdes de mon époque, voilà. Donc c'est quelqu'un qui, déjà par rapport au, si on parle de musique pure, c'est quelqu'un qui s'intéressait, qui écoutait tout ce qui était marginal à son époque et qui en a offert une synthèse pour le grand public, mais en dehors de ça, en dehors de ce fait qu'il était toujours au courant de ce qui se passait autour, dans les marges, il y avait... toute son œuvre est aussi un dialogue avec le passé. Il y a toujours eu un dialogue avec ce qui s'est passé avant. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il refait l'histoire des Beatles. Les Beatles, c'est un groupe qui, comme ça, invente, dépose les tables de la loi de la pop musique. Dans l'œuvre des Beatles, vous avez tout. Vous avez les expérimentations à la Stockhausen avec des bandes magnétiques. Vous avez la modalité, hein, la musique indienne, Within You, Without You, George Harrison. Vous avez toutes les manières de faire évoluer la chanson, voilà. Et le postmodernisme avec sur l'album blanc avec Goodnight, et donc il y a donc David Bowie quand il arrive, au début des années 70, tout la messe est dite, les Beatles se sont séparés, l'Angleterre est triste, on ne sait pas, il se passe plus rien, et donc le rock est mort, voilà, le rock est mort, on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver
pour amuser la jeunesse. C'est comme le classique, c'est toujours mort en fait.
Voilà, hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver pour amuser la jeunesse. Non mais c'est vrai, voilà, le rêve hippie, tout est terminé, et donc qu'est-ce qui reste? Eh ben il reste à refaire, voilà, reprendre l'histoire avec distance, en la théâtralisant, en la présentant comme une sorte de numéro de cirque. Et le génie, c'est que partant d'une démarche comme ça aussi artificielle, aussi cynique, presque publicitaire, presque warholienne, au fond de lui, c'est quelqu'un qui est tellement expressif, tellement viscéral, tellement
lyrique,
profond,
vraiment, hein.
tellement lyrique. Ouais. Que l'emballage paraît comme ça clinquant, fou, divertissant, etc. Mais au fond, il y a une âme comme ça tourmentée, qui est un romantique profond, qui répète toujours la même chose et qui finalement n'est pas si éloigné de la tradition européenne, du lead. Voilà, il s'agit toujours de pointer la solitude du voyageur. C'est ça, hein. David Bowie, c'est l'explorateur,
c'est
la personne.
En fait, hein.
C'est la
personne. Pardon de traduire, moi j'ai
bien sûr,
culture classique,
c'est la personne. Voilà, on creuse sur le même sillon. Il s'agit toujours de parler de l'homme qui ne coïncide pas avec le monde. Hein, ouais. Donc toute la thématique de l'espace, on se sent étranger, alien, extraterrestre. Mais aussi, ça c'est une métaphore en fait de l'homme qui ne coïncide pas avec lui-même. Voilà. Mmh. Il a toujours dit, toute mon œuvre ne parle que de l'aliénation avec les autres, mais aussi avec soi-même.
Ça, on va reparler dans un instant sur la question de la personnalité en prenant l'un de ses avatars, si vous me permettez le terme. Ziggy Stardust, donc, sur cet album Grandeur et Décadence. Et là, c'est le portrait, peut-être, du personnage lui-même.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the gnat with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind. Like a leather messiah, when the kids had killed a man, I had to break up the fan.
Ziggy Stardust, l'un des personnages de David Bowie, l'un de ses autoportraits peut-être, quoique c'est quand même une chose passionnante, Éric Dahan, de voir ces différents personnages. Il y en a eu quatre grands hein, de David Bowie, qu'il faut penser toujours à Pessoa. Je me dis c'est exactement la même chose, c'est-à-dire on ne se définit pas par ce qu'on est, par une personne, un bon gros mot freudien, on se définit par les différents personnages qu'on peut choisir de prendre comme auteur, comme artiste en particulier, ou quand même tout court. C'est un peu ce qu'il a fait, je crois, enfin... David Bowie,
c'est
j'ai l'impression.
Ce qu'il a fait, et ça correspond aussi à ce qui se passe dans les sciences humaines au même moment. Enfin, je veux dire, on va pas citer Michel Foucault, ou voilà, mais en tout cas, c'est un moment où.
Deleuze, en tout cas, ou même Foucault.
Je veux dire, l'idée que l'identité, ça n'existe pas, qu'on est que. On vit qu'une suite d'expériences transfigurantes, qu'on accède à soi-même à travers une série d'expériences, transfigurantes, d'appropriations, on est quand même une époque où la notion d'individu pleine, d'homme qui coïncide avec lui-même, déjà, avec l'existentialisme, déjà, c'est déjà. Une notion qui est très remise en question. Donc oui, il est totalement en adéquation avec ce qui se passe à l'époque. Ça veut dire à l'idée que l'homme est une espèce mutante, pour reprendre l'expression de Nietzsche, par exemple. Et effectivement, lui-même, il sait qu'en tout cas... Quand on est un artiste, voilà, on n'est pas, on est son œuvre avant tout, voilà. Et donc l'œuvre, elle évolue au gré de ses rencontres, de ses fascinations, de ses, voilà. C'est quelqu'un qui fait des expériences aussi.
Et même en musique, hein, parce que le côté expérimental de la musique, oui, est quand même très très fort. Avec cette idée en même temps, c'est que vous faisiez la remarque avec Yvan Alexandre, qui trouvait ça popu, en fait, trop pop, machin, musique commerciale.
C'est l'époque, l'effet que ça me faisait.
C'est tout à fait vrai qu'un album comme Ziggy Stardust s'adresse à la jeunesse. Hein. Ça veut dire qu'en 72, c'est le moment où il se dit, voilà, j'ai beau faire mes chansons, ça intéresse pas grand monde finalement, donc je vais décider de jouer le jeu de la rockstar à fond, je vais inventer une rockstar comme ça. Et donc ça s'adresse vraiment à un public très très jeune, et c'est très intéressant, c'est que l'année d'après Aladdin Sane sort et c'est très très différent. Ça veut dire on a toujours cet élément, cette base de guitare électrique, basse, batterie, etc., mais il y a le piano, le jeu du pianiste Mike Garson qui mêle dans un même solo la musique latino, la salsa, le jeu free jazz de Cecil Taylor. On a, enfin je veux dire, tous les instruments, on a beaucoup d'éléments qui renvoient au jazz, qui renvoient, il y a tout à coup, ça devient, on entre dans la phase de l'esthétique de la contamination, comme ça. Ça veut dire, ça devient totalement éclaté, les rencontres, les, voilà. Mais c'est vrai que Ziggy Stardust, c'est un album assez conventionnel, si on peut dire, dans lequel il y a des mélodies très belles.
Il y en a d'autres, et on voit tout au long de sa vie, finalement, il a mêlé les deux, et parfois les a un peu mélangés. Vanessa Wagner, c'est une chose qui peut être fascinante aussi chez lui, le fait qu'en effet, il a cherché le grand public, comme nous dit Eric Dahan, même à des moments, carrément, on pourrait penser au début des années 80, avec Let's Dance, il va carrément vers la dance, donc vers le gros truc à succès. Mais même à l'intérieur de ça, il y a quand même une subtilité harmonique, des recherches telles qui font que ça n'est pas que ça.
C'est ça qui, je pense, sur une carrière aussi longue que la sienne, fait qu'il y a autant de succès et si peu de ratés, même s'il y en a quelques-uns, mais qui donne quand même une dimension extrêmement, extrêmement forte à l'ensemble de ces disques. C'est qu'il a été toujours cherché, il s'est renouvelé, il a été vers le jazz, vers la pop électro, vers le funk, et puis effectivement tous ces personnages qu'il a, en tout cas au début de sa carrière, mis en avant. J'avais lu, pour revenir sur cette chose, j'avais lu une interview assez touchante de lui où il disait qu'aussi il se servait de ses avatars, comme vous dites, de ses déguisements, parce que finalement il avait aussi pas peu de confiance, mais en tout cas il se cachait un peu derrière ces personnages pour oser chanter ses chansons sur scène devant tant de monde. J'avais trouvé ça assez beau, parce que de la part d'une...
On aimerait bien le faire de temps en temps, c'est ça.
Oui, et puis une star comme ça, enfin une icône même, c'est toujours assez touchant de voir que finalement...
Eric Dahan d'ailleurs, tiens, vous l'avez rencontré vous plusieurs fois, au titre personnel, comme ça, est-ce qu'il était aussi délirant que ses costumes, alors le personnage était relativement
simple. Pas du tout, travailleur, lisant beaucoup, lisant 5 livres par semaine, non, extrêmement presque austère, travaillant énormément, drôle, sympathique, mais quand même un personnage quand même très intériorisé,
Il a dû faire beaucoup de bêtises dans sa jeunesse. Après la drogue et tout ça, il s'est quand même...
Disons qu'il y a plusieurs choses. C'est quelqu'un qui était très pulsionnel, hein, qui aimait beaucoup la vie, etc. Donc il y a une vie sexuelle débridée, c'est pas un scoop. Je crois que son rapport à la drogue, par exemple, n'était pas du tout hédoniste. C'était pas quelqu'un qui s'amusait, qui faisait la fête. C'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui s'est drogué pendant 3 années de sa vie, qui a pris beaucoup de cocaïne pour travailler, tout simplement. Parce que c'est une époque où il enregistre parfois 3, 4, 5 disques pour les uns, les autres, pour lui-même, etc.
Donc c'est une époque très vite. On se drogue beaucoup dans le milieu. Donc
on se drogue beaucoup, etc. Hein. Et d'ailleurs, ça n'a pas duré si longtemps. Ça a duré 3 ans. Mais ce n'est pas quelqu'un de fondamentalement hédoniste, je crois, qu'en dehors du fait qu'il aimait beaucoup, qu'il avait une vie sexuelle assez importante. Ce n'est pas quelqu'un qui était très plaisantin. Voilà, il considérait même ça avec beaucoup de légèreté. Et tout ce qui lui importait, c'était quand même les œuvres de l'esprit. C'était la musique, la peinture, l'art en général.
Il considérait comment ses chansons, d'ailleurs, justement, comme un art majeur ou comme un art mineur par rapport à...
Il était très fier quand il avait fait quelque chose. Il était très il considérait ça avec beaucoup de sérieux. Hein. Il pensait que ce qu'il faisait était très important. Et de facto, je veux dire, il pouvait être fier d'avoir fait des choses. Par exemple, si vous écoutez la face B de Low, il y a des morceaux comme Weeping Wall, par exemple, qu'il a entièrement composé, mais il le joue entièrement. Et c'est une époque où, par exemple, il n'y a pas encore d'ordinateur, et c'est une sorte de gamelan comme ça. J'avoue qu'à la première écoute, on ne sait pas trop où ça commence, où ça finit. On ne sait pas comment il a enregistré ses multipistes, alors qu'il n'y a rien qui permet à l'époque de caler les rythmes. Donc, on a quand même une métrique qui semble étrange. Par-dessus, il joue tous les instruments dessus. Donc, il joue cette sorte de gamelan, il joue une guitare électrique dessus. Il y a quand même des moments où, par exemple, c'était un saxophoniste très intéressant. Si vous écoutez la face B de Heroes, le solo qu'il fait sur un morceau qui s'appelle Neukölln, il fait 3 solos successifs. Donc, c'est un instrumental accompagné de synthétiseurs. Et donc, il joue 3 solos successifs. Et franchement, vous avez envie de les retranscrire et d'en faire un cas d'école. Les 3 solos qui sont totalement improvisés semblent à chacun enrichir, par exemple, la question des intervalles qu'il joue, la question des... Chacun apporte un enrichissement par rapport au premier. C'est comme s'il avait littéralement écrit cette chose. Ça paraît parfait, alors qu'on sait que c'est improvisé. Même album, il joue du koto, je veux dire. Vous connaissez beaucoup de gens comme ça qui disent « je vais prendre un koto ». La première écoute de l'album, avant de regarder que c'est lui qui en joue, on se dit « ah oui, c'est beau, c'est bien fait ». Donc voilà, il y a quand même quelque chose.
Il faut arriver à faire tout ça, faut arriver à bosser aussi.
Voilà, il y a quand même quelqu'un qui s'investit, qui décide de s'investir dans ce qu'il va faire, qui n'est pas le plus grand virtuose techniquement de la musique. Hein, c'est pas un grand pianiste, c'est pas un grand guitariste, c'est pas un immense saxophoniste, très loin de là. Mais c'est quelqu'un qui avait la volonté d'aller jusqu'au bout et qui était extrêmement sérieux et profond dans sa démarche.
On a parlé des Beatles tout à l'heure. Ben voilà une chanson, pas des Beatles, mais de David Bowie, qui est fait comme un peu furieusement penser. Ça date de 1988 et d'un album qui, lui, s'intitule 1966. And I say to myself, I've got it wrong, wrong, wrong. She's a playgirl, she's the wrong, wrong girl for me. And I say to myself, you're a fool. Wherever she goes, she hasn't the strength to love in a single man for a length of time. And I say to myself, well, I don't stand a chance. And I say to myself, it's a long gone romance. And I say to myself, well, she's out to slay. And I say to myself, well, she's got it made. And I say to myself, love anybody else in the world but me. And I say to myself, forget her now, now, now. She don't want you, she don't love you anymore. And I say to myself, you're a fool, fool, fool. She don't love you, she don't need you, this I know. And I turn around and look at myself, you'll never get her. Say after me, I'm a fool. I'm a fool, and I say to myself, I can't get what I want. And I say to myself, and it makes me sad. And I say to myself, I can't get what I want. And I say to myself, and it makes me mad. And I say to myself, oh yeah, oh yeah. And I say to myself, oh yeah. And I say to myself that you shouldn't love anybody else in the world but me. And I say to myself, oh, I feel so sad. And I say to myself, she's making me mad. And I say to myself, and I say to myself.
Bon, alors, faut tout vous dire. Je me suis un peu planté sur ce coup-là. J'ai cru qu'on avait un album de 1988 de Bowie. Il faut dire, moi, je connais à peu près rien à Bowie avant l'émission de ce soir. Donc, fatalement, ceci explique cela. Mais non, ce qu'on vient d'entendre me dit, Eric Daran, ça date bien de 1966. Donc, c'est pas qu'il se faisait une espèce de trip nostalgique comme à l'époque, non, hein. C'est qu'il était là.
Voilà, c'est l'un des groupes, vraiment sans grand intérêt musical qu'il a fait à ses débuts à une époque où il savait, voilà, où il essaie de coller à la mode, mais ça n'avait pas un grand intérêt.
Bon, d'accord. Bien. Alors, on va laisser ce titre-là de côté.
Ça c'est dit. La voix quand même, Vanessa Wagner, la voix de David Bowie qu'on a entendu là sur des titres très différents, faut dire à des époques assez différentes aussi. C'est une voix très plastique, extraordinairement changeante, par certains moments extraordinairement émouvante aussi. C'est, ah oui. Est-ce qu'on peut appeler ça une belle voix? Non, c'est pas le truc non plus, mais en revanche, il a su en faire quelque chose.
Ah, hein. Il a su. Oui, c'est une voix très originale en tout cas. Et puis il a joué aussi sur ce côté androgyne. Il a une voix assez indéfinissable, très unique, très personnelle. Donc c'est vrai que ça a sûrement contribué aussi à ce timbre qu'il a. C'est une de ses spécificités très fortes.
Ouais. Quand je dis voix pas très belle, Éric Dahan, au départ au moins, mais il la travaille en revanche. On a l'impression que c'est comme avec les personnages finalement, ça travaille.
Ouais, c'est très étonnant parce que quand on écoute, voilà, il y a quand même des Space Oddity. Je parle de tous les morceaux de l'album Space Oddity. Il y a quand même un ton de confidence comme ça qui est étrange, hein, ce timbre un peu voilé comme ça qui est assez émouvant. Voilà, on dirait qu'il vous parle à l'oreille, donc c'est assez touchant. Mais rien ne laisse imaginer, par exemple, l'iPhone Mars sur Hunky Dory. Enfin, je veux dire, tout à coup, la voix devient atteint des aigus stratosphériques. Elle est d'une ductilité incroyable. Elle est projetée avec une insolence complètement folle. Voilà, c'est quelqu'un qui rapidement va modifier sa voix et va la pousser à des extrêmes absolument insensés. Hein. C'est assez même unique, hein. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui commencent avec une voix comme ça, on a entendu de petits canards, voilà, et qui tout à coup en font un instrument comme ça absolument incroyable.
Se servir de sa voix ou de son corps comme d'un instrument, ça fait penser à quelqu'un aussi, c'est Lady Gaga finalement. Oh. S'il annonce quelque chose, mais c'est vrai, elle aussi qui joue sur des... Vous allez dire, musicalement, c'est nettement moins intéressant, ça je vous l'accorde, mais cette idée quand même que le spectacle, c'est à la fois le costume, les décors, ouais. Le commerce qui va autour, le merchandising dont il s'occupait aussi, je crois, ouais. La musique, tout ça faisant partie d'une espèce de tout dont on est le producteur absolu, c'est un peu ça quand même.
Et elle a la même démarche.
Pardon, Yvan.
Elle a la même démarche de synthèse.
Oui, il l'a inspiré. Oui.
Elle a exactement la même chose. Elle prétend rien inventer du tout, à part qu'elle se place dans le ce qu'elle appelle le pop art, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse la pop musique. En tant que musicienne, elle ne prétend que faire exactement la même chose. Enfin, c'est pas exactement la même chose. L'attitude par rapport à son époque. Ouais. Oui, mais la question est pas. Je parle pas du tout de talent ou de génie personnel. Son attitude vis-à-vis de l'art est de faire une synthèse de ce qui l'entoure. On l'a assez justement, elle aussi, accusée d'être une fausse Madonna, d'être une fausse tout ce qui l'entoure. Elle a cet œil sur tout ce qui l'entoure et dans la vie et dans l'art et dans la musique pour synthétiser tout ça. C'est l'attitude elle-même, sans encore une fois aucune comparaison à titre personnel, ni d'époque d'ailleurs, me semble assez parallèle. Oui.
Bah, Eric ? Ah pardon, Vanessa.
Oui, non, juste quand j'étais allée à la très très belle exposition à la Philharmonie l'année dernière sur Bowie, et c'est vrai que c'était très impressionnant aussi parce qu'on découvrait ou redécouvrait ce parcours protéiforme, que ça soit aussi, on n'en a pas parlé encore, mais son travail avec les photographes, est toujours extrêmement choisi. Et bien sûr, le cinéma. Et enfin, je disais les photographes par rapport à son image, qu'il a travaillé extrêmement fortement dès le départ et qui sûrement ont inspiré des gens comme Madonna, Lady Gaga. Et juste, je me disais, quel artiste aujourd'hui peut s'apparenter en termes de qualité aussi, parce que Lady Gaga, malheureusement, il en est très loin. Et la seule qui me semblait, alors je ne sais pas si Éric Dahan est d'accord, ou la seule qui me semblait s'en approcher, mais avec une carrière beaucoup plus resserrée, c'est quelqu'un comme Björk, qui elle aussi a des costumes incroyables, travaille avec des artistes très différents, va dans des chemins d'expérimentation. Et voilà, ça me semblait être...
Peut-être le rapprochement plus juste.
Plus adéquate.
Éric Dahan,
pour ma part.
Vous voulez que je dise quoi?
Est-ce que vous pensez de tout ça, voilà, ou si ça vous...
Je pense de tout ça. C'est intéressant, tout ça. Non, j'ai envie de dire que... bien sûr, la démarche est importante, bien sûr, elle a influencé des générations, bien sûr, elle a donné en tout cas l'idée que à beaucoup d'artistes de la musique populaire, mais aussi, on l'a dit, de la mode, etc., du fait que c'est important de, voilà, d'affirmer sa singularité, de suivre sa voix, d'affirmer sa singularité, ce qui est déjà pas mal. Mais je sais pas, moi, j'avoue que ce qui m'a intéressé, c'est en tout cas dans l'œuvre de David Bowie, bien sûr, il y a cette dimension, mais je crois qu'il y a la dimension musicale, tout simplement. C'est au niveau des thèmes, d'originalité des thèmes. Par exemple, à l'époque de Low et de Heroes, il écoute beaucoup Steve Reich et Philip Glass. Il a été parmi les premiers auditeurs à Londres en 70. Ouais. Les concerts de, je crois que Steve Reich a donné un concert en 70 avec son ensemble à Londres. Et ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, bon, bien sûr, moi-même, j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est l'originalité extrême de ces mélodies les plus belles, la façon de créer une esthétique sonore, tout ça, c'est très important. Mais par exemple, même des gens comme Philip Glass, par exemple, disait que Philip Glass a fait 3 symphonies hein, basées sur des thèmes de David Bowie, qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, il faut bien l'avouer. Mais en tout cas, il a dit que, parce que Philip Glass n'est pas un grand orchestrateur, je pense. Mais il a dit, par exemple, une chose intéressante, une fois quand j'ai fait un film dans lequel il intervenait, il disait, David Bowie a l'idée, l'intuition de mélodies, il compose des mélodies dont des gens très savants comme nous, qui ont plus grande connaissance, en tout cas de la composition, plus grand entraînement à la composition, n'auraient même pas l'intuition. Voilà. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est... sa capacité comme ça à partir d'une culture qui va un peu dans tous les sens, de s'emparer du matériau musical parfois et de le développer dans des directions qui sont un peu inusuelles. Alors il y a aussi l'esthétique du collage. Hein, il y a parfois, on a découvert des années plus tard que certaines chansons étaient simplement 2 chansons dont il avait collé le couplet, le refrain, et ce qui explique comme ça cette disruption subite stylistique qui paraît comme ça inouïe. On se dit mais comment quelqu'un compose ça? Stevie Wonder aurait fait des modulations beaucoup plus logiques, beaucoup plus cohérentes, plus fluides. Il aurait respecté des périodicités dans la modulation. Il aurait fait David Bowie. Non, voilà, il y a comme ça cette esthétique très étrange, cubiste, et ça c'est assez unique dans l'histoire du rock.
Je vous propose qu'on entende un peu de sa voix, David Bowie, quoique dans un contexte un peu particulier.
This is the story of Peter and the Wolf. Each character in this tale is going to be represented by a different instrument of the orchestra. For instance, the bird will be played by the flute, like this. Here's the duck, played by the oboe.
Oui, un extrait de Pierre Leloup, parce qu'en effet, il a aussi servi, si j'ose dire, de récitant sur un Pierre Leloup dirigé par Roger Normandie, ce qui est quand même pas rien. Enfin bon, voilà, c'était quelque chose que je connaissais pas.
Il a dit qu'il a fait ça pour son fils à l'époque. Voilà. D'accord. Quand on lui demandait, mais comment, enfin voilà, tout à coup, on est en pleine trilogie berlinoise et tout, qu'est-ce que tu vas faire avec un orchestre? Il disait, j'ai fait ça pour mon fils.
D'accord. Fils très doué quand même.
Son jeune fils.
Juste un mot encore, Éric Dahan, qu'est-ce qu'il faut écouter de David Bowie? Parce que nous, on est allé un petit peu musicalement au pifomètre. Hein. Qu'est-ce qu'il faut? Dites-moi un album ou deux qu'il faut absolument entendre, que vous regrettez de ne pas avoir entendu ce soir.
Je crois que si on veut comprendre pourquoi quand même il va rester, il faut écouter Aladdin Sane, qui est peut-être son premier grand disque, extrêmement sophistiqué. Je veux dire, il n'y a pas une note de sac, une partie de saxophone. Tous les arrangements sont fonctionnels. Hein. La moindre ligne de basse, la moindre ligne de guitare, le moindre phrasé de piano fait bouger la composition, entraîne la modulation suivante. Donc c'est vraiment un disque extraordinaire. Et j'ai envie de dire quoi d'autre? Oui, il faut écouter la période berlinoise. C'est quand même très très beau. Heroes, Lodger, Low, c'est des disques importants. Voilà, oui.
Vanessa Wagner, un disque de David Bowie qui serait le vôtre?
Voilà. Peut-être. Je connais moins bien.
J'ai bien dit le vôtre, pas celui.
Ashes to Ashes, c'est Station, je crois.
Non, c'est sur Scary Monsters en 1980. Et c'est très intéressant. La chanson, vous pouvez l'écouter sur YouTube à l'envers, parce que quelqu'un l'a mise à l'envers. C'est aussi intéressant musicalement qu'à l'endroit.
À l'envers qu'à l'endroit.
Ah oui, c'est très beau.
Parce que les Beatles à l'envers, c'est moins intéressant.
C'est très très beau. Oui, c'est très très beau. Les mélodies sont incroyables. Les mélodies à l'envers sont aussi géniales que les mélodies à l'endroit. C'est très troublant.
Pour Ashes to Ashes.
Oui, il faut l'écouter à l'envers, c'est très intéressant.
Ouais. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de David Bowie. On va refermer avec son dernier album, Black Star. C'est le choix de.
Oui, qui est un très bel album que moi j'ai écouté depuis 3-4 jours, là, depuis qu'il était sorti. Et qui est...
Parce qu'il est sorti, en effet, pour ses 69 ans, il y a 4 jours à peine.
Oui, c'est ça.
In the fear of amen. In the fear of amen. Stands a solitary candle.
c'était Black Star, le titre qui ouvre le dernier album et qui sera donc le dernier de David Bowie. Black Star lui aussi, qu'on considérera comme son album testamentaire, mais qu'est-ce que vous voulez, avec les testaments, il faut se méfier. Il peut-être avait envie de faire 50 000 autres albums derrière. Enfin, ce sera ainsi. Le Classic Club ce soir, c'était Flora Sternadel, Maud Nourry, Antoine Courtin, Loïc Duros et Adrien Gaza. Je souhaite à tous une très bonne nuit. Grand merci à mes trois invités qui sont venus me voir à l'hôtel Bedford de ce soir. On vous retrouve bien sûr demain.